Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierre-Éric.
Nous nous retrouvons donc pour une 7e émission, une série d'émissions que nous avons choisi de consacrer à l'étude du récit de la création qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse. Alors nous essayons, au fil de ces émissions, de mieux comprendre l'intentionnalité de Dieu qui nous communique une parole inspirée pour donner sens à notre création et permettre en 6 étapes, comme nous avons commencé à les parcourir, de comprendre comment l'homme est construit. Nous avons vu la structure de la création, je reprends un peu quelques éléments des émissions précédentes, comme une structure de la connaissance pour l'homme, et qui se définissait, cette structure, à travers 4 images bibliques posées dans le principe, alors les cieux, la terre, les eaux et l'abîme. Le premier jour était lui davantage orienté vers une première distinction posée par la divinité, un principe de connaissance-conscience par le contraste, donc Dieu sépare, la divinité sépare la lumière des ténèbres, ce qui initie l'existence de l'homme. Le second jour, une seconde distinction est opérée. Cette seconde distinction va être une séparation des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Voilà, ce qui nous renvoie, cet agir de Dieu, Dieu fait la séparation, nous renvoie à l'agir de l'homme, qui met en œuvre donc son gouvernement dans la création. Voilà, donc ce firmament, cette séparation, vous l'avez donc, vous nous avez proposé de le comprendre comme le corps humain dressé entre terre et ciel. Voilà, et qui essaye de mettre de l'ordre dans les eaux aléatoires, les états potentiels et indifférenciés du monde. Voilà, donc nous allons poursuivre notre cheminement à travers donc le troisième jour, la troisième étape dans cette construction de l'homme. Et peut-être c'est important aussi de redire quant à ce second jour que cette distinction que le corps humain opère lui permet donc de se dissocier, de dissocier sa perception des objets qu'il perçoit. Voilà. Et puis d'entrer aussi, mais là nous allons le développer au cours de ces émissions, ce qu'est la symbolicité des objets qui l'entourent dans le monde. Alors je vous propose que nous commencions par la lecture de ce troisième jour du livre de la Genèse.
Tout à fait. Donc le troisième jour, la divinité dit que s'amassent les eaux d'au-dessous les cieux vers un endroit unique et que paraisse la sèche. Et il en fut ainsi. Et la divinité appela la sèche terre et l'amas des eaux, il l'appela mer. Et la divinité vit que c'était bon. Et la divinité dit, que la terre fasse verdir de la verdure, herbe semençant semence, arbre fruit faisant fruit selon son espèce, dont la semence est en lui sur la terre. Et il en fut ainsi. Et la terre fit sortir de la verdure, herbe semençant semence selon son espèce, et de l'arbre faisant fruit dont la semence est en lui selon son espèce. Et la divinité vit que c'était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, jour troisième.
Donc nous voyons dans ce troisième jour que nous pourrions diviser ce troisième jour en 2 opérations, je crois, hein, à savoir donc à la fois cette séparation des amas des eaux et de la terre, et puis une présence donc de verdure.
Ah oui, le texte comporte effectivement 2 parties très nettes qui sont marquées littérairement par « Et la divinité dit, Vayomer Elohim hein. ». Il dit les choses. Hein. Alors c'est une nouvelle séparation. Mais cette fois-ci, il y a des choses nouvelles, puisque c'est parmi les eaux d'en bas, donc qui est une des parties qu'on a vues la dernière fois, il y a séparation, mais le mot n'est plus employé. Hein. c'est de fait une séparation. Dieu dit que ça masse les eaux de dessous les cieux vers un endroit unique. Alors, le mot exact, c'est un endroit un, El Makom Echad. Et cette unité de l'endroit qui est désigné nous rappelle évidemment que le premier jour, comme on dit, était un jour unique, un jour un aussi. Et ça, quand on connaît les Écritures, on sait que cette unité va être dite ensuite de Dieu lui-même. Dieu est un. Yod Vav Eloheinu Echad. C'est toujours le même mot qui est très puissant. Et alors pourquoi on va vers un endroit un? Donc vous voyez, donc toutes les eaux se ramassent en un seul endroit, donc ça fait une immense mer. Et il apparaît du coup
la terre sèche.
Et que paraisse la sèche. D'abord, sèche. Alors c'est Ayabasha en hébreu. Et nous allons avoir une fois de plus la renomination de la chose qui apparaît. Et cette chose-là, la divinité l'appelle terre. Donc, il va employer, là aussi, un terme qui est connu, puisqu'il apparaît dans la première phrase de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et un voile de ténèbres recouvrait l'abîme, et l'Esprit de Dieu soufflait sur les eaux. Souvenez cette phrase. Et dont on tire des noms pour renommer des choses que Dieu fait. Donc il faut bien comprendre ce phénomène. On l'a déjà vu deux fois, puisque, enfin, plutôt, la lumière, il l'appelle jour, la ténèbre, il l'appelle nuit. C'est des mots nouveaux. Mais le deuxième jour, la séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il l'appelle cieux. Mais cieux, c'est donc quelque chose qu'on voit dans la première phrase et qui nous rappelle ce qu'on a dit tout au début, c'est que ces images fonctionnent comme une donnée de principe. D'ailleurs, Bereshit, c'est le principe. Et les cieux sont rapportés à l'ordre, donc l'ordre qu'il y a dans le monde. La terre, évidemment, au mélange d'ordre et de non-ordre, ce qui traduit tohu vabohu. Les eaux sont rapportées au non-ordre, aux choses aléatoires, mouvantes, et évidemment l'abîme va être rapporté à quelque chose qui est ni ordre ni non-ordre. Donc c'est un élément de logique, et évidemment qui est fait uniquement pour l'intelligence, puisqu'il n'y a rien à observer. C'est recouvert de ténèbres.
Ni ordre ni non-ordre, donc comme vous l'avez dit, hein, qui symbolise ou qui signifie l'inconnaissable pour l'homme.
Qui va justifier le fait qu'il y a de l'inconnaissable pour l'homme. Mmh. Mais l'inconnaissable pour l'homme est donc structurel, c'est-à-dire que ça tient à la structure de la création, et ça va tenir aussi à la structure de la connaissance humaine. Et donc on va pouvoir analoguer, donc, parce que c'est très semblable, dans le fond, cette inconnaissabilité du monde sous un certain aspect, avec le fait que l'homme ne peut pas atteindre par la connaissance à ces choses-là. C'est deux choses. Il y a un domaine qui est de l'ordre de l'objectivité, si vous voulez, des choses, et un domaine qui est de l'ordre de la subjectivité, c'est-à-dire de nos actes de connaissance. Et évidemment, ça se rejoint. Et il se trouve, ça on le développera peut-être un peu plus tard, que la structure de la description même de la création, en quatre grands domaines, va correspondre avec la structure de la connaissance pour nous. Alors, pour l'instant, nous regardons ce que signifie justement cette séparation entre la terre et l'eau. Alors, ce n'est pas vraiment une séparation comme avant. Vous voyez, c'est l'eau qui se retire en un endroit unique, qui laisse apparaître la terre. Et cette terre, c'est ce qu'on appelle la sèche, en hébreu. Évidemment, puisqu'il n'y a plus d'eau, ça devient sec. Et Dieu renomme ce sec terre, c'est-à-dire avec le terme du début. Donc, pour nous dire, ce qui est mis en évidence, par le retirement des eaux, c'est quelque chose de l'ordre du ordre et non-ordre. C'est-à-dire que quelque chose qui est mélangé, il y a de l'ordre, mais c'est comme tous les événements que nous voyons dans le monde sensible, ils sont ordonnés, ils obéissent à des lois, mais pas tout à fait. C'est lié avec de l'aléatoire, avec du hasard, comme on dit. Alors quelquefois très peu, quelquefois beaucoup.
Qui est tout de même une distinction, puisque les eaux, elles, ne signifiaient que du non-ordre.
Alors,
donc
on est
à une étape de conscience, si le terme est approprié, en tout cas supérieure à ce que les eaux signifiaient dans cette confusion.
Bien sûr, parce qu'avant, on défaisait la confusion totale, le deuxième jour, de tout, parce que tout est noyé dans l'eau, c'est-à-dire dans le non-ordre. Bon, c'est la confusion complète. Mais le corps humain, mis au milieu de ça, fait qu'il y a un haut et un bas, et induit justement une structure d'ordre, qui va être la structure, justement, des cieux, de la terre, des eaux et de l'abîme. Mais n'allons pas trop vite. Alors, ici, l'appellation nous montre qu'il faut voir que le retirement des eaux, les eaux restent du non-ordre. Et qu'est-ce qui apparaît ? Ordre et non-ordre. C'est-à-dire ce qui est relativement distinct, mais pas complètement non plus. Ce qui est totalement distinct, c'est l'ordre pur. Mais l'ordre pur ne s'observe pas. C'est un élément de l'intelligence, l'ordre pur. La nécessité, les lois, on ne voit jamais des lois. On voit les phénomènes qui sont conduits par les lois, auxquels ils obéissent. Mais on ne voit jamais une loi. On voit un phénomène. Et le phénomène, il a toujours quelques perturbations. Et donc, ici, on voit que c'est par un retirement du non-ordre qu'apparaît. Mais ça indique une chose très importante, c'est que la terre, donc, était cachée. Et que elle se dévoile, en quelque sorte, par le retirement des eaux. Donc, on diminue la dose, en quelque sorte, de hasard et de confusion, et du coup, il y a des formes qui apparaissent. La terre ferme. Bon. C'est un premier élément, on voit, dans la construction même de notre perception du monde, c'est très important. Comment on découvre quelque chose qu'on ne voyait pas avant ? Avant, tout était recouvert par une espèce de nébulosité, d'humidité, enfin d'imaginaire. Et sans doute pour un enfant, tout est dans l'imaginaire ou presque. Et peu à peu, quand l'imaginaire se rassemble en quelque sorte, il laisse paraître quelque chose qui n'est plus imaginaire, du moins beaucoup moins. Autrement dit, l'expérience sensible va commencer à prendre acte.
Ce qui ne veut pas dire donc que ce qui paraît n'existait pas, mais n'était pas encore révélé.
Alors, ça existait, mais on ne pouvait pas le voir.
C'est ça.
Et on voit cette expression tout à fait importante, c'est que la divinité dit que s'amassent les eaux, que paraissent la sèche. Eh bien, il y a un changement par rapport aux autres jours où on voyait que Dieu faisait les choses, les créait ou les faisait. Alors ici, en quelque sorte, c'est comme s'il laissait faire quelque chose qui est naturel aux choses qu'elles produisent. Voyez, c'est passif. Alors, est-ce qu'il y a une passivité en Dieu ?
Alors, peut-être avant que vous développiez cette cause seconde dans l'acte créateur divin, prenons une première pause musicale.
Thank you.
reprenons après cet extrait de Mendelssohn, la symphonie numéro 4. Donc vous nous disiez, juste avant cette pause musicale, que la divinité n'était pas sujet de ces deux nouvelles opérations que nous constatons au troisième jour, donc à savoir cette nouvelle séparation et puis la renomination de ce qui est séparé. Alors pourquoi institue-t-il une cause seconde dans son acte créateur ?
Alors, effectivement, ce qui paraît ici, c'est que Dieu dit que les eaux s'amassent, comme si les eaux pouvaient s'amasser elles-mêmes. Et ça, ça indique justement la cause seconde. La cause seconde, c'est ce qui dans le monde est cause effectivement de phénomènes, mais n'est pas la cause créatrice. Alors c'est très important parce que donc nous voyons le troisième jour apparaître l'idée même de cause seconde. C'est-à-dire que Dieu fait tout, mais pas directement. Il y a des médiations dans l'acte qui n'est plus un acte de création. Alors, c'est donc un acte de gouvernement. C'est-à-dire que quand on fait faire quelque chose, c'est toujours un acte de puissance, mais ça n'est plus un acte de création directe. Par exemple, au début, c'est pas que la lumière paraisse comme si c'était un phénomène naturel, hein, c'est qu'il y ait de la lumière. Donc c'est un ordre direct, c'est un ordre de création. Hein. Tandis que là, c'est que les eaux s'amassent, comme si ça leur était naturel de s'amasser. Alors qu'est-ce qui est naturel pour nous ? D'ailleurs on l'observe, et c'est ce qu'on appelle les causes secondes. Hein. Alors, comme nous n'oublions pas que les six jours sont six tableaux pour nous enseigner comment l'homme est fait, il se trouve que dans la nature humaine, il y a la possibilité, donc, d'entendre ces paroles et que Dieu gouverne ce monde par des causes secondes. Et donc, on ne faut pas confondre l'acte divin de création avec l'acte divin de gouvernement. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que pour nous n'aurons jamais à créer quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de spécifique à la divinité. Mais nous aurons des choses à gouverner. Et cela nous fera à l'image de Dieu sur ce point-là. Car à partir du moment qu'il y a des causes secondes, et qu'on peut y intervenir, alors, eh bien, par exemple, il y a des fleuves, cause seconde, la gravité fait qu'ils coulent comme ci et comme ça, mais nous, on peut creuser des canaux, mettre des berges artificielles, faire des retenues, et donc on va faire un amas des eaux dans un barrage, par exemple. Mmh. Bon, et donc on va utiliser cette structure des causes secondes, et ça va permettre aux hommes d'agir. Mmh. Hein? Sinon, on serait dans un monde où c'est Dieu qui fait tout, hein? Et que l'homme, dans le fond, ne pourrait rien faire dans ce monde. Il ne pourrait rien toucher, parce que c'est l'œuvre divine. Mais ça, c'est une idolâtrie. Et bien sûr que tout vient de la création de Dieu, mais dans la création, il y a la structure pour qu'on puisse y changer quelque chose. Et alors c'est très important parce que c'est le tout commencement de la possibilité qu'on va voir paraître de gouverner et d'être libre. Hein. Parce que s'il n'y avait pas cette structure, jamais, au grand jamais, les hommes ne pourraient connaître la moindre liberté. Ils seraient entièrement déterminés par la donnée du monde. Ce que des gens qui sont athées croient d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont une espèce de divinité épouvantable qui est un déterminisme complet. Là, on nous dit non, il y a des causes secondes, donc c'est pas un déterminisme complet. Voilà. Alors, cela va se développer ensuite dans la seconde partie du troisième jour. La sèche devient visible, donc, et elle devient Eretz. Et nous voyons donc quelque chose qui va être notre soutien dans l'action. Et c'est pourquoi cette terre ferme est ferme, hein, et solide pour nous, relativement solide, en opposition à la mer instable. Donc nos actions vont pouvoir agir vraiment. C'est-à-dire, dans l'eau, on ne peut pas faire. On change l'eau de place, mais elle revient à sa place. Tandis qu'on change un caillou de place, il reste à sa place. Il y a une inertie à cause de l'ordre sur la Terre qui va permettre l'action. Bon. Alors, on suppose, là aussi, qu'il y avait de l'eau partout, puis qu'il n'y a de l'eau à un endroit unique, et donc on assiste à une procédure de dévoilement, de révélation, de manifestation. Alors c'est très important ça aussi, parce que ça veut dire que, comme ce sont des causes secondes qui agissent là, on va pouvoir chercher, on va pouvoir découvrir. Donc il y a des secrets dans le monde, il y a des choses qui sont cachées, que nous ne connaissons pas, eh bien, on va pouvoir faire comme Dieu, et on va pouvoir dire aussi, nous, que les eaux s'amassent. Hein ? Alors, c'est une figure. Hein ? Par exemple, il y a des domaines entiers qu'on ne connaît toujours pas, et il s'agit de purifier notre vue du monde de tout ce qu'il y a d'imaginaire pour trouver des choses solides. Ça s'appelle la découverte scientifique. Et ce qui est dévoilé, eh bien, c'est la Terre, mais au sens du pays, pas au sens de la Adama. La Adama, ça va apparaître plus tard, ça sera la Terre cultivable, comme on dit, dont sera tiré l'homme, mais qui est qualifié par rapport à l'homme qui va paraître. Tandis que là, c'est la donnée créée par Dieu. Toute l'opération, donc, consiste à dévoiler le sens du tohu vabohu. En faisant rassembler les eaux, on diminue le non-ordre et on obtient un nouveau contraste, comme les jours précédents. Et le contraste, c'est entre ordre et non-ordre, donc le monde contingent comme on le voit, et non-ordre, à savoir le monde potentiel. Alors, vous savez que c'est par une circulation entre l'ordre et, entre le monde contingent et le monde potentiel. Le monde potentiel, il n'existe pas en quelque sorte, il est que par image, jusque dans la réalité. Et la circulation entre les deux, ça va être ça, la connaissance humaine. Alors, donc ici, on a un principe de connaissance parce que on sait faire apparaître une différence parmi les causes secondes. C'est pas simplement dans les choses éternelles faites par Dieu. Entre la lumière et les ténèbres, on l'a vu dans le cycle jour et nuit. Au second jour, on a vu cet autre contraste entre la perception et ce qui est perçu. Et cette fois-ci, on dévoile donc la connaissance par découverte.
Alors est-ce que cette connaissance a un lien donc avec la verdure qui va apparaître dans la suite
Oui, bien sûr.
Du récit.
La seconde partie suit. Mais j'aurais aimé pouvoir dire un petit mot sur les mers. Parce qu'il y a un jeu de mots en hébreu qu'on ne peut pas voir dans les traductions. La mer, ou les mers, c'est au pluriel en hébreu, ça se dit yamim. Mais il suffit de changer la vocalisation, c'est strictement le même mot, parce que vous savez que la vocalisation n'est pas dans le mot. Ça fait yamim, ça veut dire les jours. Alors on a un amas d'eau ou un amas de jours. Alors c'est moins immédiat évidemment, c'est un jeu de mots. Mais l'écriture fonctionne avec beaucoup de jeux de mots. Et là c'est très important, pourquoi ? Parce que on est dans le troisième jour, donc on commence à être dans la répétition des jours. Il y eut un soir, il y eut un matin, etc. Et ça va tourner indéfiniment. Et donc, nous, par exemple, on nous parle de millions d'années, voire de milliards d'années. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, mais on sent que c'est quelque chose d'énorme. Donc, dans lequel on ne distingue plus, parce qu'on peut distinguer entre quelques jours, quelques mois peut-être, quelques années, mais distinguer dans des milliards d'années, on ne sait plus distinguer. Bon. Et du coup, les jours qui sont des choses contrastées avec la nuit et le jour vont rentrer dans une nouvelle confusion, en quelque sorte, dans une espèce de lissage par le très grand nombre.
On ne distingue plus l'unicité du jour.
Voilà, on ne distingue plus cette chose. Et donc, nous, on va être mis dans quelque chose de mouvant à cause des répétitions. Et d'ailleurs, on aura cette expression dans les psaumes, « mille ans sont comme un jour ». Alors, 1000 ans, c'est pas difficile, c'est 365 250 jours. C'est beaucoup. Et du coup, il n'y a plus de distinction. Comment remettre de la distinction là-dedans? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, c'est la pierre d'achoppement, en quelque sorte. Et on va voir sa solution le quatrième jour. Donc, parce que on va construire des calendriers, par exemple. Mais j'anticipe. Bon. Maintenant, on arrive alors à la seconde partie du troisième jour, qui est la production de la Terre.
Alors, avant que vous nous expliquiez ce que la Terre produit ou ce que symbolise cette production de la Terre, je vous propose un second extrait musical.
Oui.
Donc nous reprenons, donc nous étions dans notre analyse du troisième jour de la création avec ce que vous venez de nous dire, à savoir que Dieu ne crée pas, mais qu'il gouverne, voilà, que les eaux s'amassent. Et puis la seconde partie de ce troisième jour commence par que la verdure, que la terre se couvre de verdure. Alors quel est le sens donc de cette... De cette nouvelle création, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, en tout cas cette verdure qui se compose d'herbes et d'arbres.
Alors il y a un nouvel ordre, effectivement, que la terre fasse verdir de la verdure. Bon. Mais auparavant, j'aimerais préciser une des choses que nous n'avons pas dites à propos de la main des eaux. C'est une chose très banale à observer, c'est que si on regarde l'image, c'est un système d'image, hein, si les eaux s'amassent en un seul lieu, ça fait apparaître une nouvelle forme qui est le bord de quelque chose.
Vous voyez ? Une frontière.
Il y a le bord, et le bord a une propriété spéciale, c'est que d'un côté il appartient aux eaux, et de l'autre côté il appartient à la terre ferme. Il y a un bord de l'eau. On pourrait dire un bord de terre aussi, mais on dit bord de l'eau. Bon. Eh bien le bord appartient aux deux. Alors c'est très important parce que cette figure, donc on a deux domaines, ici c'est une image extrêmement simple, puisqu'on a une immensité de terre en quelque sorte, au milieu duquel il y a un grand bassin qui s'appelle les mers, et avec un bord. Bon. Mais cette figure, c'est une figure bien sûr. Alors la figure, c'est de ce qui est caché et de ce qui est découvert. Et il faut pouvoir passer de l'un à l'autre, puisque c'est le retirement des eaux qui va découvrir la terre. Donc, en quelque sorte, on enlève les eaux dessus la terre pour les mettre dans un seul endroit. Et ça, c'est la figure de la négation binaire. Vous voyez, quand on est... Parce que la négation qui fait passer, disons, de 0 à 1 ou de 1 à 0, pour les ordinateurs, hein, c'est une fonction involutive sans point fixe. C'est-à-dire que on peut passer d'un terme à l'autre par la négation. Alors, je suis dans la pièce et je sors, bon, je ne suis plus dans la pièce. Donc, je passe, mais c'est réversible. Je peux rentrer de nouveau et donc, si je nie le fait de ne pas être dans la pièce, eh bien, de nouveau, je suis dans la pièce. Et indéfiniment. Donc, je peux passer d'un domaine à l'autre et effectivement, dans la négation, c'est comme si je faisais marcher un bord. Donc, je vais avoir une structure. Là, c'est un peu difficile à expliquer comme ça oralement. C'est plus facile de faire des schémas. Mais c'est la structure même de la négation que nous connaissons bien, à savoir deux domaines séparés dont l'un n'est pas l'autre. Hein? C'est très net. Alors, bien sûr, rétrospectivement, c'est-à-dire, oui, mais avec le jour et la nuit, il y avait déjà cette négation. Sauf que l'image ne porte pas cette structure parce qu'il n'y a pas de bord entre le jour et la nuit. C'est indéfini. Les images, vous savez, sont très spécifiques. Elles portent des choses. Et après, c'est leur fonction. Dire, mais rétrospectivement, mais c'était déjà là. Mais c'était déjà là.
Ce n'était pas encore découvert.
C'était pas encore découvert.
C'est vrai pour la séparation des eaux aussi, puisque voilà. Le firmament était aussi une forme de bord entre l'amas des eaux.
Mais c'est pas un bord.
Mais ce n'est pas encore manifesté.
C'est pas manifesté. Et donc justement, le bord ici manifeste cette séparation de ce type. C'est la séparation qui se formalise dans la pensée humaine par l'acte de négation simple, qui est la négation binaire. On verra un peu plus loin qu'il y a une négation quaternaire.
Ce qui permet une localisation aussi, donc le lieu apparaît. Makom,
c'est le lieu, oui. Alors c'est une notion très importante, parce que s'il y a un lieu, ça veut dire qu'on distingue ce lieu, pour qu'il devienne un lieu justement, de tout le reste. Donc là aussi, il y a un acte de négation.
Très présent dans la Bible, on peut songer au songe de Jacob.
Bien sûr. Et d'ailleurs, dans le songe de Jacob, on retrouve la structure de révélation. Et parce que là, il est dans le sommeil et puis dans l'éveil, quand il se réveille, il dit que ce lieu est terrible, Amakom Azé, c'est le même terme. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu et je ne le savais pas. Donc c'était bien quelque chose qui était là.
Caché.
Et à cause d'un certain acte, alors on le commentera peut-être si on arrive un jour à l'épisode de Jacob, à ce moment-là, il y a une révélation. Et la même chose, le retirement des eaux, c'est comme l'éveil à ce moment-là, le retirement du sommeil en quelque sorte, alors il apparaît quelque chose. C'était là, on n'en savait rien et on l'apprend.
La différence entre la naissance et la conception, si on recule dans nos premières émissions, mais bon.
Ça, c'est encore un peu autre chose. Alors, c'est sûr que celui qui naît met au jour le fait qu'il a été conçu. La conception est cachée dans la naissance. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, souvent, on l'oublie. On dit notre date de naissance, bien sûr, parce qu'on ignore, en gros, notre date de conception. C'est pas très difficile à supputer, mais enfin bon. C'est vrai que la naissance est plus facile à observer. Bon. Et on sort des eaux, d'ailleurs. Bon. Mais là, c'est plutôt de l'ordre de l'association d'idées. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des analogies qui sont solides, et puis ensuite, évidemment, comme l'analogie, et ça on va le redire, hein, comporte une part de flou, on peut aller vers du flou vraiment très flou, et retourner au sein des eaux du rêve. Alors nous, on essaye d'être sur Terre, à savoir d'avoir des pensées construites, relativement construites, parce qu'absolument c'est impossible, mais quand même relativement solides, et de quelles on puisse enseigner une logique. Or, c'est très important de voir apparaître la notion de négation avec le bord. Pourquoi ? Parce que c'est un des instruments de la pensée. Et nous allons le voir, avec l'apparition de la verdure, nous allons donc voir la naissance du langage construit sur l'analogie. Et donc, à la fin du troisième jour, nous aurons les deux instruments capitaux essentiels de la pensée humaine, à savoir la logique et l'analogie. Donc, alors, revenons sur cette scène inaugurale, en quelque sorte, pour comprendre pourquoi ces images sont porteuses d'une telle signification. Alors, je relis ce passage de la deuxième partie du troisième jour. Et la divinité dit que la terre verdisse de verdure, herbe semence en semence, arbre fruitier faisant du fruit de lui-même, ou selon son espèce. On va voir qu'on peut traduire des deux façons. Dont la semence en lui sur la terre. Et ce fut ainsi. Donc là aussi, c'est une causalité seconde, c'est que la terre fasse son travail, en quelque sorte. Comme si elle était capable, par elle-même, de produire des herbes. Alors, c'est pas de la botanique. On va voir que c'est une figure pour nous faire comprendre quelque chose au niveau du langage. Et la terre fit sortir la verdure, herbe semence en semence, d'elle-même, ou selon son espèce, et arbre faisant du fruit, dont la semence est en lui, selon son espèce. Et la divinité vit que c'était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, jour troisième. Alors ce qu'on remarque, parce que c'est d'une répétition presque lourde, c'est constamment selon son espèce. Alors en hébreu, c'est un mot difficile à traduire en fait, c'est leminéo. Et les Grecs ont traduit d'une certaine façon dans la Septante, et ils ont traduit justement selon son espèce et selon sa ressemblance. Parce que selon son espèce ne traduit pas tout à fait leminéo. Alors, ils ajoutent la ressemblance. Vous savez que pour la création de l'homme, on dira que Dieu fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. On reviendra sur cette traduction. Mais il y a les deux termes. Eh bien ici, les traducteurs de la Septante rajoutent cette chose. Et l'herbe semence à semence, selon son espèce et selon sa ressemblance. Et donc ils redoublent. Vous savez, ça veut dire la gêne qu'ils ont pour traduire. Et selon son espèce, c'est pas suffisant. Ben, selon son espèce, ça veut dire que un arbre fruitier, bon, un péché fait un autre péché, un cerisier fait un autre cerisier. Ça, il se reproduit. Ça, on le sait, il y a une stabilité des espèces complète. Et donc, on ne peut faire de la semence que selon son espèce. Mais le terme « leminéon » porte un autre sens. C'est le sens d'elle-même. La semence, semence en sa semence, d'elle-même. C'est-à-dire que là, ça pointe un phénomène qui est tout à fait nouveau aussi pour nous. C'est-à-dire quelque chose qui va nous montrer un automatisme. Quelque chose qui se fait par soi, de soi. Donc, il va y avoir dans le monde aussi des automatismes. Alors, ça, il faut le comprendre.
Une auto-reproduction, en tout cas de l'auto-reproduction de
l'espèce. C'est-à-dire que la verdure, qui est un terme très général, on va le voir, les herbes et les arbres s'auto-reproduisent. Et effectivement, depuis la fondation du monde, il y a des herbes et des arbres, et ils se reproduisent indéfiniment. Voilà. Donc, merci. On pourrait dire que la végétation est immortelle. Les individus, la petite herbe, elle meurt. Ou tel arbre, il meurt. Oui, mais l'arbre se reproduisant par ses graines, c'est toujours la même espèce qui vit. Alors, qu'est-ce qui vit ? Est-ce que c'est l'individu arbre ou est-ce que c'est l'espèce ? Par exemple, il y a du chêne. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de chênes individués, mais c'est l'espèce chêne qui dure, qui est auto-reproductrice. Alors, on va voir ce que ça signifie maintenant. Parce que ça, c'est l'image qui nous est offerte.
Et ressemblance n'est pas forcément similitude non plus.
Alors,
bon, Mais...
Et quand il y a une ressemblance, ça veut dire qu'il y a une similitude.
Une apparenté.
Mais... Oui. Si, il faut une similitude. Ça ne veut pas dire une identité.
Voilà.
Quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre, il a des traits communs, mais pas tout. Ça serait, sinon, ça serait son clone. Hein? Alors, qu'il faut remarquer dans cette troisième jour à propos des herbes, c'est qu'il n'y a pas de changement de nom des choses cette fois-ci. Toi, on nous habitue. D'habitude, on nous change toujours les noms, ce qui signifie quelque chose. Là, ça n'est pas rapporté à autre chose. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est un dévoilement, là aussi. La première partie, on a vu dévoiler le secret de la terre, à savoir qu'elle est mouvante, mais pas tout à fait. Et comment cela s'est montré? Sans faire référence aux catégories de la création. Parce que maintenant, toutes sont dévoilées. Sauf, évidemment, le ni ordre ni non-ordre, l'abîme, qui n'est pas dévoilable, puisque lui, par principe, il est inconnaissable. Donc, il faut savoir que ça existe quand même. C'est un arrière-fond pour nous. Nous avons beaucoup de choses à connaître, mais sur un fond d'inconnaissable. Ça ne veut pas dire d'inconnu. L'inconnu, c'est ce qu'il faut découvrir, justement. Mais l'inconnaissable, c'est pas la peine de faire d'efforts, c'est pas possible. La terre, en tant que distincte de l'eau, c'est bien ordre et non-ordre. Ou, on pourrait le dire aussi comme ça, similitude et différence. Et qui se mêlent dans des proportions indéfinies. C'est donc le lieu de classe analogique. Alors ça, c'est une nouvelle notion qui apparaît ici, fondant la possibilité même du langage. Et c'est ce qu'on nous dit avec la distinction de la verdure. La verdure qui verdoie, ça sépare de tout le reste, c'est-à-dire tout le reste qui n'est pas vivant. C'est d'abord la verdure.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore dans une catégorisation herbe et arbre. C'est la verdure.
Voilà. C'est la verdure, c'est la, voilà. Donc on nous
les
donne,
végétaux. Les
on
végétaux.
Nous donne une classe générale d'objets autoreproducteurs, quand même. Hein? En effet, chaque mot désignant quelque chose est une classe analogique fondée sur une similitude commune aux choses. Ici, la similitude commune aux choses dont on parle, c'est vert. Voilà, tout ce qui est vert. Mais dans tout ce qui est vert, on va voir qu'il y a des choses très différentes. Et donc, on va pouvoir faire des classes d'objets avec des similitudes plus précises. Laissant ainsi, à l'extérieur du mot, toutes les différences entre les objets. Quand on dit vert, on ne regarde plus les différences entre les objets. On regarde uniquement la similitude. Et on ne peut construire une telle classe qu'en ayant l'usage de l'opérateur d'appartenance, parce que c'est vert ou c'est pas vert? Ça, on a cet opérateur d'appartenance, c'est la négation. Ça y est ou ça n'y est pas. Donc on sait faire cette opération de négation. Et faire une opération de négation, c'est équivalent à une relation d'appartenance. Ça, vous voyez, on est dans la pièce ou on n'est pas dans la pièce. Voilà.
Alors Jean-François, il va falloir que nous concluions notre septième émission, mais nous reprendrons...
Alors, nous avons encore beaucoup de choses à dire,
je pense,
sur le troisième jour.
Nous entrons à peine dans cette découverte du langage. Merci.
À la prochaine fois.
Merci beaucoup Jean-François, merci.